Si le monde n'est pas capable de sauver les Maldives aujourd'hui, nous ne serons pas en mesure de sauver New York, Londres ou Hong Kong demain.
Les Maldives, une histoire environnementale.
C'est à 6 mètres de profondeur, dans les eaux turquoises de l'océan Indien, que s'est tenu le 17 octobre dernier le Conseil des ministres des Maldives. Ordre protocolaire oblige, c'est le président Mohamed Nachid qui plonge le premier, suivi de son vice-président et de 11 membres du gouvernement. Objectif, alerter l'opinion publique internationale sur les dangers du réchauffement climatique. L'archipel des Maldives est l'un des pays les plus menacés par la montée des eaux et pourrait disparaître dans un siècle.
L'éphémère président maldivien de 2009 a voulu étonner le monde en tenant sous l'eau un conseil des ministres d'urgence, histoire donc de sonner l'alarme, les océans montent. Pourtant, aux Maldives, les touristes des îles hôtels, quand ils ne robinsonnent pas sous les cocotiers, vivent déjà sous l'eau, sans s'inquiéter outre mesure. Leur sont proposés à gogo des dîners et des festivals de plongée, accompagnés parfois de conversations avec les dauphins. Il faut juste qu'ils ne regardent pas ce qui se passe dans les autres îles habitées par les résidents permanents. Les islamistes, aux commandes depuis le renversement du président Nachid, y veillent, de même qu'ils continuent de limiter à une trentaine d'années la durée des concessions qu'ils accordent aux investisseurs étrangers. Les calculs économiques et politiques s'effectuent donc dans le très court terme, l'espace d'une génération, dans l'espoir que n'intervienne pas de suite un raz-de-marée. Dans la longue durée, l'archipel avait pourtant vécu d'une économie durable, fondée sur la pêche. C'était une société halieutique. Les échanges se faisaient même en coquillages de porcelaine, les coris. La mer était ressentie comme moins menaçante qu'aujourd'hui, puisque la monnaie elle-même en venait.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Grégory Quenette, bonjour.
Bonjour.
Alors, on se souvient de vos travaux sur le Grand Versailles, le grand domaine de Versailles, vu d'un point de vue environnemental. Vous étiez venu nous en parler. On se souvient de vos travaux sur le tremblement de terre de Lisbonne. Il arrive qu'il y ait des tremblements de terre aux Maldives. Enfin, on ne veut pas décourager les touristes aujourd'hui. Vous faites de l'histoire environnementale. Vous enseignez d'ailleurs l'histoire environnementale à l'université de Saint-Quentin. C'est formidable, ça permet de se promener dans des aires géographiques extrêmement différentes, parce que l'histoire environnementale varie selon les zones de la planète.
Oui, dans des aires qui aujourd'hui nous font rêver, mais qui, comme l'histoire orientale nous apprend, ont été à certains moments des enfers, isolés, à d'autres moments des lieux profondément connectés. Et une des choses que nous apprend l'histoire environnementale, c'est que finalement, notre planète est faite d'une mosaïque de sociétés qui toutes ont tissé des rapports différents avec l'environnement, qui ont varié et se sont recomposés dans le temps. Et les Maldives sont un exemple paradigmatique.
Sur vos conseils, on a fait une émission sur la naissance de la conscience écologique aux États-Unis avec les parcs naturels, mais les îles dites à certains moments paradisiaques ont aussi favorisé l'éclosion d'une pré-conscience écologique, y compris des îles qui appartenaient à la France d'ailleurs.
Oui. C'est la thèse d'un historien anglais, Richard Grove, qui est très peu connu en France, mais qui pourtant a défendu l'idée que finalement la conscience environnementale était née d'abord dans les colonies françaises, à l'époque de Pierre Poivre, dans les années 1770.
Qui Donc avait l'île sous de sa... France et l'île Bourbon.
Voilà, qui
Maurice
avait
et Réunion.
Maurice, la Réunion et les Seychelles. Parce que pour la première fois, eh bien, serait apparue l'idée qu'il y avait un lien entre le couvert forestier, les précipitations et le climat. Et Pierre Poivre a mis en place des mesures absolument exceptionnelles pour protéger les forêts au nom des raisons climatiques, en s'appuyant sur les conseils, mais c'est un petit peu contestable, de Bernardin de Saint-Pierre et aussi de Commerson, son naturaliste.
Oui, mais parce que quand on fait de l'histoire environnementale, et Poivre en faisait peut-être en 1767 déjà, on a des conseillers qui viennent de différentes disciplines. Bernardin de Saint-Pierre, c'était un historien de la nature avant d'être le romancier que l'on sait. Vous avez parlé des Seychelles, on va aller dans l'océan Indien, plus au nord, à quoi, 2000 kilomètres,
c'est oui, à peu près, oui.
Des Seychelles aux Maldives. Les Maldives, je disais, c'est une économie halieutique. Le professeur Douman, je vous a parlé de ça longuement. D'où sortent de la mer la monnaie, les coquillages, le poisson qu'on va fumer et sécher, et même les époux. Parce que quand quelqu'un aborde aux Maldives, il peut prendre femme un moment et puis la répudier en repartant.
Oui. Les Maldives avaient une économie complexe, en fait, qui avait, je dirais même, quatre richesses, en rajoutant une à votre liste, qui sont le couar, c'est-à-dire les cordages, faits de fibres de coco, qui étaient utilisés dans tout l'océan Indien, avec des cordes qui pouvaient faire jusqu'à 180 mètres de longueur, et un cordage qui était extrêmement résistant, une des meilleures qualités possibles. La deuxième, c'est le kauri, ce coquillage étonnant, qui a la particularité d'être, en fait, très bien se prêter à la standardisation. Et donc, il est devenu la monnaie d'échange, en fait, de tout l'océan Indien, jusqu'aux côtes de l'Afrique, parce qu'il était, on pouvait le mettre dans des récipients avec des qualités absolument identiques et donc s'en servir pour, comment dire, comme principale monnaie. Et enfin, le poisson séché. Le poisson séché, technique que les Maldiviens avaient développée, permettant de conserver longuement ce poisson qui périssait au bout de quelques heures simplement.
Ce sont les arts de la pêche qui tiennent compte de l'exploitation durable, des complexes de récifs coralliens. Ce sont des arts de la navigation, à la différence des Seychelles que vous citiez. Et où vous allez plus souvent d'ailleurs.
Oui, j'y vais bientôt d'ailleurs.
À la différence des Seychelles qui sont isolées, les Maldives, on ne l'imagine pas aujourd'hui, mais jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, c'était un carrefour. Oui. C'était l'île où on s'arrêtait.
C'est une différence profonde par rapport à l'imaginaire que l'on a aujourd'hui de l'île, comme un endroit isolé, comme une île paradisiaque. En fait, effectivement, les Maldives sont le carrefour de l'océan Indien. Le carrefour de l'océan Indien parce que, d'abord, on est face à un système, le changement du système de mousson entre l'Est et l'Ouest. Ensuite, parce que l'on est finalement un carrefour entre le Sri Lanka, ce qui permet de contourner l'Inde tout en étant en même temps à 700 km de la côte, à mes distances entre les îles de la Sonde et l'Arabie. Donc c'est l'endroit parfait où finalement tout le monde s'arrête et est obligé de s'arrêter aussi à cause des conditions maritimes.
Les Arabes amènent l'islam qui s'implante dès le XIIe siècle. Les Chinois sont arrivés avant les Portugais. Et puis on citera, parce qu'il est parti de Saint-Malo en 1601, Pirard qui a fait un livre extraordinaire. Il a naufragé là, il est resté 5 ans et il nous a décrit les Maldives de manière très précise.
Oui, on a, et c'est une grande différence avec les Seychelles qui étaient une île inhabitée, on a une quantité très importante de sources sur les Maldives. Effectivement, des sources arabes dès le Xe siècle, les sources écrites, ces sources chinoises, on a au moins, disons, dans les années, les Chinois, il y a eu des expéditions entre 1405 et 1433, on a au moins quatre récits de cela. Et puis effectivement, Pirard de Laval, qui, à cause de la négligence de ses compagnons et de l'équipage qui était ivre, et du capitaine qui refuse de croire que ce sont bien les Maldives, qu'ils sont en train de traverser, eh bien, échoue.
Rendons hommage aux éditions Chandaigne qui ont publié ce livre de chronique de Pirard de Laval. Quand les Hollandais, puis les Anglais vont prendre davantage le contrôle de la région, il va y avoir une sorte d'isolement et de déclassement. Le sommet étant atteint quand les Anglais se servent d'une île des Maldives comme une base militaire.
Oui. Sur la longue durée, il y a un basculement, c'est le moment où la Chine et l'Inde cessent d'être des puissances navales. Et pour la Chine dans les années 1430, pour l'Inde à la fin du XVIe siècle. Et donc cet océan Indien qui était un océan global, avec des bateaux qui étaient capables de le traverser, avec cet axe qui allait du Yémen et de l'Oman jusqu'à l'Inde et la Chine, devient un océan fractionné qui commence à s'isoler. Et effectivement, c'est un retournement pour les Maldives, sur le retournement sur lequel s'implante la puissance des Hollandais et des Portugais.
Des Britanniques surtout.
Et des Britanniques, pardon, oui aussi.
Qui vont installer une base militaire au sud des Maldives. C'est des Britanniques qui est obtenu tardivement et sur une dizaine d'années. L'indépendance qui va faire du sultanat des Maldives une république avec un président quasi perpétuel qu'on va entendre ici dans un reportage de 1981, le président Momoun Abdul Gayoum.
D'ailleurs, cet État minuscule possède toute la symbolique de l'État moderne. Drapeau, bâtiment administratif où chaque ministère n'occupe en moyenne que 4 pièces, et puis surtout, une Mercedes pour le président de la République. Déjà, à l'époque du sultan, le chef de l'État ne marchait jamais. Les traditions sont donc jalousement conservées.
What kind of a new techniques?
Monsieur le Président, vous êtes à la tête de l'État depuis 3 ans et vous vous êtes voué à la modernisation du pays, notamment dans le domaine de la pêche.
Nous devons essayer d'accroître la productivité de la pêche. La motorisation des bateaux à voile traditionnellement utilisés s'est révélée être le tournant dans le développement de la pêche. Un bateau à moteur peut prendre jusqu'à 5 fois plus de poissons qu'un doni traditionnel. Nous avons pu mécaniser 800 donis sur les 2300 existants actuellement, mais il faudra que les techniques nouvelles qui sont envisagées tiennent compte des réserves de poissons qui ne sont pas inépuisables, ainsi que des problèmes d'approvisionnement en pétrole.
Il faut aussi noter qu'un bateau à moteur emploie 2 fois moins de marins qu'un bateau à voile, d'où un chômage nouveau et important dans les îles. Autre conséquence, l'usine. Ce bateau est l'équivalent du bus de ramassage des ouvriers dans les usines du monde entier. Chaque samedi, il passe dans toutes les îles voisines prendre 100 d'ouvriers, hommes et femmes, qui passeront une semaine à l'île usine.
Antenne de 1981, on a raison de se préoccuper de l'état futur des réserves halieutiques. La fin du grand cabotage maritime avait marqué l'isolement et le déclassement des Maldives, mais dans les années 70, qui coïncident avec celle de l'indépendance, la mise en place de transports aériens va permettre le développement du tourisme. Il y a aujourd'hui peut-être un peu moins de 400 000 habitants et 2 fois plus de touristes chaque année. C'est un tourisme très étrange parce que il n'est pas libre. On va pas faire du camping aux Maldives. On va dans des resorts.
1972 est une date très intéressante puisque c'est à la fois l'apparition des premiers resorts et le moment où le Sri Lanka cesse d'importer des poissons des Maldives. Et donc il faut trouver une économie de substitution. Et sur cette économie de substitution qui est décrite en des termes modernistes qui peuvent nous plaire par le président se cache une réalité beaucoup plus complexe en réalité puisqu'effectivement s'installe une ségrégation de l'espace. Une ségrégation de l'espace entre des îles hôtels, chaque hôtel ayant une île d'un côté et de l'autre des îles où vivent les Maldiviens où les touristes ne vont pas. Ce qui met fin à un écosystème qui était complexe, où on allait d'île en île et où on exploitait les îles inhabitées, tout en ayant une faible population sur les îles habitées.
Le président perpétuel, dont vous critiquez le modernisme, a quand même senti que les dérèglements de la nature allaient lui poser des problèmes. C'est sous son règne qu'a lieu un raz-de-marée important en 2004, qui fait que les 2/3 de la ville capitale de Malé sont inondés. Et les îles hôtels, situées à quelques dizaines de minutes d'hydravion ou de bateau, s'inquiètent.
Bienvenue à Vabin Farou, une île minuscule qui abrite l'un des plus beaux hôtels des Maldives. Un écrin de rêve pour les amoureux, mais aussi une place forte qui se défend tant bien que mal contre les assauts d'un océan chaque jour plus agressif. À coups de tonnes de sable pompées dans le lagon pour empêcher plages et constructions d'être emportées.
Avant, il y avait là une très grande plage, avec beaucoup d'arbres. Mais le sable est parti ailleurs.
Le docteur Abdulaziz est biologiste. Depuis des années, il surveille l'île et le récif corallien qui l'entoure.
Aujourd'hui, l'érosion des plages est devenue pour nous un vrai problème.
L'érosion des îles n'est pas la seule inquiétude des Maldiviens. Dans son laboratoire financé par l'hôtel, Abdulaziz étudie aussi les coraux qui forment autour des îles une fragile barrière contre les assauts de l'océan. Les Maldives sont le pays le plus plat du monde et son cœur, c'est Malé. Une île surpeuplée qui doit se protéger de vagues de plus en plus puissantes. Avec l'aide du Japon, une gigantesque digue en béton a été construite en attendant mieux.
France 2. Oui, les conséquences du raz-de-marée sont aussi politique, parce qu'il faut faire appel à l'aide internationale. On a entendu citer le nom du Japon, mais il y a d'autres ressorts sur lesquels on peut jouer. Mais l'aide internationale va se répandre plus facilement si sont faites des réformes politiques.
Oui, c'est finalement le retour de, disons, des Maldives sur la carte du monde, en quelque sorte, ce qui avait été le cas avant, et la manière dont le changement climatique va permettre non seulement aux Maldives d'occuper un rôle dans les institutions internationales, mais aussi de négocier, finalement, une aide au développement importante, la place des ONG, avec, dans ce cas-là, un jeu complexe qui se met en place entre, finalement, le discours de l'extérieur et le discours de l'intérieur. À l'intérieur, les enquêtes orales le montrent, le gouvernement est accusé de ne rien faire, par exemple, contre le changement climatique. Les effets qui sont décrits ici sont d'ailleurs dus en partie au fait d'avoir des implantations lourdes, des routes, des jetées, qui empêchent la circulation, finalement, du sable et le renouvellement des récifs coralliens.
Mais à l'extérieur, en revanche, L'accent est de plus en plus mis sur les questions environnementales par les porte-parole des Maldives. D'autant que c'est le moment, après ce raz-de-marée, où va apparaître à la tête de l'État Mohamed Chinachid.
Oui, mais avec en même temps aussi une critique, puisque certains, les exploitants des îles hôtels, disent que ce risque-là risque d'effrayer les touristes.
Alors donc, avant qu'on entende cet éphémère président dans un discours à l'ONU en 2009, si vous avez trouvé, chers auditeurs, la musique qui accompagnait le reportage de France 2 trop moderne, on peut vous servir dans le genre C-Sex Hanson, Talia Ferro. Imaginez-vous dans une embarcation à fond plat, la proue relevée en pointe, dans une lagune et conversant avec des dauphins.
When the sun is warm here on the beach. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun. Sur France Inter.
Mesdames et messieurs, je vais être clair. Nous demandons aux leaders de ce monde, aujourd'hui assemblés, de rompre avec les habitudes, les complaisances et les promesses non tenues qui ont mené au bouleversement climatique, et de saisir l'opportunité qui se présente au bout de notre route à Copenhague. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous n'avons rien fait pour en arriver là. Mais si les choses continuent comme d'habitude, nous mourrons. Notre pays n'existera plus. Merci beaucoup.
Le président Mohamed Nachid, qui avait été élu en 2008 devant l'ONU en 2009, avant le sommet climat de Copenhague. Vous parliez, Grégory Kenet. On essaye de faire une histoire environnementale des Maldives avec vous, de la différence entre le discours extérieur et le discours intérieur. Après l'échec de Copenhague, Mohamed Nachid va revenir vers ses mandants en disant « c'est un succès, Copenhague, parce qu'il y a un document d'attente qui a été signé par tous les partis ». On imagine que si le Bourget COP21, dans moins d'un mois, est un échec, on nous dira « on a quand même réussi parce qu'on va se revoir et faire un point 5 ans après ». Il est renversé peu de temps après, Mohamed Nachid, malgré toutes les précautions qu'il prend.
Oui, et encore une fois, à cause de la place de l'eau, des Maldives dans cet océan Indien global, puisque le jeu, c'est le jeu entre, d'un côté, les pays arabes, de l'autre, l'Inde, et enfin, la Chine. Et le président Nachid est connu pour avoir misé plutôt sur l'Inde contre la Chine. Donc, il y a des renversements, et finalement, ses adversaires vont miser, eux, sur les pays du Golfe plutôt.
Parce qu'on peut expliquer ce qui se passe sur les îles habitées par les permanents, aux touristes qui en bateau ou en hydravion rejoignent leurs îles hôtels sans avoir tourné la tête. Il y a un développement du mouvement islamiste très net dans l'archipel des Maldives à cause de ses liens avec les pays du Golfe. Le débat porte notamment sur l'application de la charia. Voici le témoignage d'un islamiste il y a de cela 3 ans.
Nous nous voulons la charia pour toutes les Maldives. Et nous faisons pression sur le président, le gouvernement et même sur la population. On rappelle constamment qu'il faut appliquer les lois de la religion. Il y a certains cas où il faut punir une personne par la peine de mort, parce que c'est justifié dans la charia. C'est le prix du sang, un mort pour un mort.
Mais l'ancien président maldivien avait pourtant signé des conventions internationales, des droits de l'homme et des droits de l'enfant contre la peine de mort.
Ça, c'est une simple signature. on peut toujours la changer.
En général, je ne suis pas pour le boycott, mais là, je pense que vraiment, cette île, ses seules ressources, c'est le tourisme. Maintenant, les touristes sont dans un véritable ghetto. Et je lance un appel aux voyagistes, aux compagnies aériennes, pour une action immédiate. Non, attendez, des peines de mort pour des enfants de 7 ans.
Seule nuance, ils ne pourront pas être exécutés immédiatement.
Oui, à Jacques Maillot, qu'on entendait, l'ancien président de Nouvelles Frontières, précisons que les enfants condamnés à mort doivent attendre, dans une sorte de couloir de la mort, quelques-uns y sont déjà, l'exécution qui intervient après leur majorité. Mais il peut y avoir un islam vert.
Oui, sur la longue durée, on voit que l'islam maldivien était d'une part très différent, était beaucoup plus, c'était un islam ouvert, extrêmement tolérant. Les femmes étaient connues pour leur lascivité, par exemple. Et sur, si l'on élargit encore une fois, l'islam médiéval est connu pour l'importance des règles sur l'utilisation des ressources environnementales. Donc, c'est encore une fois une question d'élargissement du prisme temporel qui finalement donne quelque chose de très différent de ce que vient de nous décrire le président de Nouvelles Frontières. C'est-à-dire la manière dont, au contraire, finalement c'est l'effondrement de cette société halieutique qui a créé cette figure des îles isolées et ce fantasme d'île paradisiaque sur lequel a prospéré le tourisme, s'accompagnant d'une société totalement déstabilisée.
Alors, société déstabilisée que le tourisme accentue dans ces fractures. Les îles hôtels, je ne sais pas combien il y en a.
80.
Les îles hôtels emploient quelques Maldiviens, pas beaucoup. Et dans l'espace de 5 ou 10 kilomètres autour des îles hôtels, il y a des gens qui vivent dans la dépendance économique des îles hôtels, qui ne consomment, paraît-il, que du poisson venu des Maldives. Pour le reste, c'est autre chose. Alors, ceux qui, parmi les Maldiviens, quelques milliers vivent du système des îles hôtels, ils ont des mœurs, des comportements de plus en plus différents de ceux des résidents permanents des grandes îles peuplées. Vous parliez de la lascivité des femmes.
Alors,
les comportements moraux, sexuels ou alcoolisés des employés.
C'est un thème polémique que l'on revoit souvent, mais disons plutôt que cela crée une sorte de conflit. Et quand on prend un certain nombre d'itinéraires d'islamistes maldiviens, par exemple, on trouve des anciens employés d'hôtels, au contraire, justement. Ce que montre l'histoire longue des Maldives, c'est que c'était au contraire le contact fréquent avec les voyageurs qui s'arrêtaient, qui donnaient une société ouverte et tolérante. Et la ségrégation a conduit à ces fractures. En revanche, la question qu'il faudrait poser, c'est à qui profitent les ressources du tourisme, c'est-à-dire des concessions que le gouvernement donne. Et là, on trouve une autre question de longue durée de la société maldivienne. C'est une société dominée par une oligarchie, qui était celle autour du sultan, qui après a été recomposée, et finalement de ressources touristiques dont l'ensemble de la population profite très peu.
Alors, les concessions, c'est 30 ans, 35 ans, ce sont des sociétés européennes, ou bien il y a de plus en plus de sociétés et aussi de touristes qui viennent de Chine, par exemple.
Ces dernières années, on a assisté à un essor important des sociétés des touristes chinois. Aujourd'hui, on parle de 100 000 touristes chinois. C'est un petit peu en baisse avec la recomposition récente du système politique en Chine. Touristes chinois qui ont la réputation de dépenser moins, d'ailleurs, que les touristes européens, qui sont moins bien accueillis. Effectivement, on retrouve, il y a cette inquiétude qu'aujourd'hui les recettes touristiques soient menacées et compromises par ces recompositions.
Bon, nous on n'est pas habitués, Alexandre Chenet, Stéphane Ronxin, moi, l'équipe de la Marche de l'Histoire qui a préparé cette émission, a appelé Karine, Nathalie ou Julie, qui sont des conseillères spécialisées dans les Maldives, dans les agences, mais c'est comment une île hôtel ? Vous qui êtes un habitué aux Seychelles et aux Maldives.
Alors, je suis allé aux Maldives tout à fait par hasard.
Oui.
J'étais au moment d'une crise environnementale, c'est-à-dire l'année dernière, l'incendie de l'usine de désalinisation de Malais. Et donc, il était impossible d'y travailler. J'ai dû me replier sur une île hôtel qui sont... c'est un véritable enfer, en quelque sorte.
Comment ça ?
C'est-à-dire que c'est toute la perte, pour moi, de complexité de sens que donne l'histoire et la compréhension des liens qui nous unissent avec l'environnement.
Et encore, vous tourniez le dos aux îles déchets.
Parce qu'il y a une grande île poubelle. Parce que qu'est-ce qu'on fait des déchets? On peut pas mettre des incinérateurs sur les îles si petites, si nombreuses et paradisiaques, sauf pour vous. Alors, une île spéciale a été créée artificiellement. Voici un documentaire de Marie David sur le sujet.
C'était à la base un lagon très peu profond. Je crois qu'il n'y avait qu'un mètre cinquante de profondeur. Alors on a envoyé là-bas des pelleteuses et on a commencé à draguer et à pomper le sable. On a creusé jusqu'à 3-4 mètres de profondeur pour créer l'île. Et Tilafushi a été officiellement inscrite sur la carte des Maldives. Ces 40 dernières années, notre mode de vie aux Maldives a beaucoup changé. Et nos déchets aussi.
Cadmium, mercure, amiante, plastique se mélangent aux eaux salées du lagon et font l'effet d'une véritable bombe toxique.
Tout ça se répand dans l'océan et pollue tout l'environnement. C'est pour ça que nous devrions tous être préoccupés.
En même temps, c'est cette île malodorante qui est grande, qui va séduire pour des implantations industrielles. Il y a 260 entreprises, paraît-il, qui ont un terrain sur l'île de Tilafushi. Et donc des gens qui viennent y travailler, plus nombreux que ceux qui sont employés dans les îles hôtels.
Et ce sont des îles, c'est une île dont on voit les fumées depuis les îles hôtels.
Ah bon?
En fait, sans que personne ne soit capable d'interpréter cette fumée qui est à l'horizon. Et effectivement, il y a cette main-d'œuvre importante qui vient du Bangladesh et du Pakistan, avec les tensions habituelles qu'il y a, comment dire, sur quelque chose qui ressemble à du travail forcé.
Alors, vous nous aidez à comprendre ce qu'est l'histoire environnementale, Grégory Kenneth. Je rappelle vos livres sur Lisbonne, sur Versailles. Les déchets, l'impensé de l'histoire, mais pas de l'histoire environnementale, y tiennent une grande place.
Oui, parce que c'est renoncer à l'idée que les rapports entre les hommes et leur environnement sont harmonieux, mais au contraire, il y a des impacts, des dégradations, et les déchets sont un cas paradigmatique. D'ailleurs, il faut l'aborder sans jugement de valeur trop simpliste. Les cories dont vous parliez tout à l'heure,
les coquillages, les porcelaines blanches,
donnaient lieu à des déchets extrêmement importants. Oui. Puisqu'en fait, il fallait extraire le petit animal qu'il avait dedans, donc on les laissait pourrir. Le fameux couard, eh bien, il y avait quelque chose qui s'apparentait à du rouissage aussi, extrêmement malodorant et polluant. Et donc, il ne s'agit pas simplement de considérer que seules les sociétés contemporaines polluent, mais qu'il y a cette histoire, disons, complexe, heurtée, qui se recompose des impacts.
Oui, mais il vient un moment quand même où, je ne veux pas citer le pape et son encyclique écologique, l'homme se met en danger sous la charge de ses propres déchets.
Oui. Avec deux nouveautés qui sont d'une part la masse, c'est-à-dire le nombre des hommes, et d'autre part le fait qu'il y ait des déchets qui ne soient plus, disons, biodégradables, mais qui a d'ailleurs été vu dans un premier temps comme des progrès. L'arrivée de l'automobile dans les villes est vue comme un progrès environnemental dans les années 1900, puisque cela élimine la pollution des déjections animales.
Il n'y a pas de voiture en Maldives?
Si, il y a sur l'île de Malais, il y a de très nombreuses voitures.
Il y a la Mercedes du président.
Beaucoup plus que cela, en fait. C'est même, comment dire, on voit les effets de la manne touristique qui est captée par un petit nombre d'habitants. Et les rivalités politiques qu'il y a aujourd'hui ont comme toile de fond la question de ces capitaux qui viennent du tourisme.
Merci à vous, Grégory Kenneth. Cette émission a été préparée par l'équipe de La Marche de l'Histoire, avec à la réalisation Jacques Sigal, la préparation Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco.